Voici comme chaque semaine votre rendez-vous avec l'accent des autres. Voici donc l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours vu par les médias francophones publics. RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Bleu et la RTBF. Et on se rend pour commencer au Canada avec vous, Nadi Mobarak, le Canada qui durcit le ton à l'égard du régime iranien.
Interdiction d'entrée au pays, blocage de transactions financières, Ottawa y va d'une série de sanctions pour faire pression sur Téhéran dans la foulée de violentes répressions de manifestations.
Ce ne sera pas la grande fête du football en Suisse à partir du 20 novembre prochain. Pierre Anchoffat, comme dans d'autres pays d'ailleurs, la Coupe du Monde se vivra, disons, en mode mineur.
Le dernier grand rendez-vous populaire pour les supporters vient d'être annulé à Genève en cause les pressions des adversaires de la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi la faiblesse des rentrées publicitaires.
En Belgique, les syndicats ont une nouvelle fois mis la pression sur les gouvernements et sur le secteur de l'énergie, Jacques Crémers.
Oui, des blocages, des manifestations cette semaine, notamment devant l'un des sièges du fournisseur d'énergie Engie Electrabel ou devant certaines centrales. Les syndicats dénoncent une nouvelle fois des prix de l'énergie intenables.
C'est une affaire qui bouleverse la France depuis 8 jours. Une jeune fille tuée à Paris et retrouvée dans une malle. Le monde politique s'est emparé de ce drame, Éric Valmire.
Lola, 12 ans, retrouvée morte en bas de son immeuble à Paris, un sujet qui est bien plus qu'un fait divers en France.
Enfin, sur le continent africain, nous reviendrons avec vous, Clémentine Pavlotsky, sur cette nouvelle passe d'armes tendue entre le Mali et la France.
Oui, ça s'est passé mardi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef de la diplomatie malienne a lancé de très graves accusations contre la France qui ont provoqué l'indignation de l'ambassadeur français auprès des Nations Unies.
Et voilà donc pour les titres de cette semaine. Bienvenue à vous. Le gouvernement canadien serre donc la vis à l'égard de Téhéran. Il a annoncé ces dernières semaines plusieurs sanctions contre l'Iran, on a dit.
Voilà, après avoir été critiqué notamment par la diaspora iranienne pour la lenteur de sa réponse à la crise en Iran, le gouvernement Trudeau tente de montrer qu'il met tout en œuvre pour que les responsables du régime à Téhéran répondent de leurs actes. Ottawa interdit notamment à 10 000 dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran de fouler le sol canadien pour toujours. Plusieurs entités iraniennes ne pourront plus faire affaire avec la plupart des entreprises canadiennes et on parle aussi de gel d'avoir au Canada. Voici le Premier ministre Justin Trudeau.
C'est des mesures extrêmement fortes, rarement utilisées par le Canada, utilisées seulement dans les cas les plus graves, comme on a vu en Bosnie ou au Rwanda.
Voilà donc Justin Trudeau à l'instant et Nadi, ces sanctions ont fait réagir.
Oui, l'opposition à Ottawa estime que ces sanctions ne répondent pas à la demande spécifique du Parti conservateur qui réclame l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique à la liste des entités terroristes du Canada. Mais selon le professeur en affaires internationales à l'Université d'Ottawa, Thomas Junot, implanter une telle mesure serait extrêmement complexe.
Les sanctions qui ont été adoptées sont moindres dans un sens, mais elles sont ciblées pour le leadership iranien et c'est eux qu'on veut pouvoir sanctionner. Alors.
Thomas Junot indique que plusieurs dirigeants iraniens ou des membres de leur famille ont des avoirs au Canada, viennent au pays ou encore y envoient leurs enfants.
Et par ailleurs, Ottawa injecte 76 millions de dollars, soit plus de 56 millions d'euros pour s'assurer que ces sanctions seront bel et bien appliquées.
Oui, mais cette enveloppe ne réglera pas tout. Il faut dire que le gouvernement se heurte à un défi d'embauche de personnel. Selon Ottawa, il faudrait embaucher en quelques semaines 30 nouvelles personnes pour appliquer ces sanctions, mais en pratique, ça pourrait prendre plus de temps.
Le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football au Qatar, c'est dans un petit mois maintenant. Et comme dans d'autres pays, les villes suisses renoncent aux écrans géants. Plusieurs raisons à ces décisions, Pierre, qui tombent dans plusieurs grandes villes.
Et c'est Olivier, alors même que l'équipe de Suisse est bien en lice, mais c'est vrai, l'esprit n'est pas à la fête du football. Des communes ont renoncé pour des raisons énergétiques, alors que la pénurie menace. Dans ce contexte, l'installation de tentes chauffées aurait fait tâche. Et puis, il y a les motifs plus politiques, bien sûr, avec la situation des droits de l'homme au Qatar et les conditions auxquelles les ouvriers étrangers ont été soumis lors de la construction des stades. Début octobre, la ville de Lausanne a précisément invoqué son attachement au respect des droits humains pour justifier sa décision de ne rien organiser.
Oui, et c'est un choix politique qui n'est pas anodin, Pierron.
C'est juste, il a même une portée symbolique pour la capitale olympique qui accueille, outre le siège du CIO, de nombreuses fédérations sportives internationales. Cette semaine, c'est au tour de Genève de tirer la prise, mais là, pas de choix politique puisque ce sont des privés qui organisent régulièrement ce lieu de rassemblement pour les supporters. Indicateur intéressant, la pub n'est pas au rendez-vous. L'organisateur Frédéric Hall a donc abandonné, faute de rentrée publicitaire suffisante.
Principalement, c'est les écrans publicitaires. Puis la deuxième source de revenus, c'est la vente des stands. Donc la première, les espaces publicitaires, on a eu 95% en moins que ce qu'on fait d'habitude. Puis les stands, c'est la première fois qu'on avait loué tous les stands. Puis depuis quelques semaines, beaucoup d'exploitants nous disaient, bah, écoutez, si vous annulez, bah, on serait plutôt content et puis on serait heureux de revenir avec vous en 2024.
Ajoutez à ces incertitudes les appels au boycott, les menaces même contre les organisateurs, les risques de manifestation, et vous reconnaîtrez que l'annulation est peu surprenante. La ville s'en accommode plutôt bien, la majorité de gauche avait assurément les mêmes soucis éthiques que la ville de Lausanne, mais elle pouvait difficilement interdire cette fan zone car elle aurait dû dédommager financièrement la société organisatrice.
En Belgique à présent, les syndicats socialistes et chrétiens ont mené de nouvelles actions un peu partout dans le pays cette semaine. Blocages et manifestations contre la hausse des prix de l'énergie, essence, gaz, électricité. Plusieurs sites étaient visés, Jacques.
Oui, des endroits symboliques ou stratégiques. La centrale nucléaire de Tihange, par exemple, en région liégeoise. Ou encore le site du fournisseur d'énergie Engie Electrabel à Namur. Une centrale électrique d'Engie a aussi été bloquée en province de Hainaut. Un mot d'ordre pour toutes ces actions, dire au gouvernement qu'un pull ne suffira pas pour affronter l'hiver. La situation est totalement intenable pour certains, comme l'explique ce syndicaliste de la FGTB, le syndicat socialiste, la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique.
Nous avons des cas dans nos affiliés de gens qui reçoivent des factures d'acompte plus élevées que leur salaire net. C'est impossible de vivre dans des conditions pareilles. Nous voulons impérativement un blocage des prix de l'énergie. La FGTB, depuis sa création, a toujours revendiqué la nationalisation du secteur de l'énergie, notamment pour avoir un contrôle public sur les moyens de production, sur les capacités d'approvisionnement et bien entendu sur la formation des prix.
Voilà donc pour ce constat côté syndical. Au total, des milliers de personnes, Jacques, ont demandé des mesures plus fortes un peu partout.
Et même les transports en commun ont été perturbés. Les bus wallons ont aussi suivi le mouvement ce jeudi. Vous l'avez entendu, les revendications exprimées par les syndicats restent les mêmes. Blocage des prix de l'énergie, mais aussi taxation des surprofits ou encore arrêt des politiques de privatisation de l'énergie. Une journée d'action et une grève générale, cette fois, sont prévues le 9 novembre prochain.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
C'est un drame qui secoue la France entière depuis 8 jours. Le meurtre d'une collégienne en plein après-midi à Paris. Une suspecte a été interpellée et mise en examen, inculpée. Elle a été vue sur des caméras de surveillance. Il est question d'aveu puis de rétractation. Mais quoi qu'il en soit, Eric, l'affaire interpelle la France.
Dès la découverte du corps, le sujet a interpellé les Français. Une jeune collégienne qui rentre chez elle en plein après-midi, qui disparaît dans son propre hall et dont on retrouve le corps dans une malle à deux pas le soir. Et puis très vite, les éléments de l'enquête, les détails. Elle a été violée, torturée, égorgée. La France pense à Lola. Dans le quartier, c'est encore plus difficile. Comment en parler en famille, à l'école? Le reportage de Maya Baldour-Offredon de France Bleu Paris.
Devant l'immeuble où vivait Lola, des dizaines de bouquets de fleurs, des bougies et des riverains toujours choqués.
Ça me ronge à l'intérieur. Quand je vois ça, je dis comment vont faire les parents.
Bah moi, j'habite à 800 mètres, je suis marié, mon épouse, elle n'ose pas venir. Quoi. Ouais, on a une petite fille qui a 11 ans. Ma femme, elle est effrayée. Quoi.
Juste en face, une école primaire. Cette maman et sa fille de 6 ans sont venues déposer un bouquet.
D'elle-même, elle m'a demandé si on pouvait venir apporter des fleurs et si on pouvait mettre un petit mot pour les parents de cette petite fille. C'est pas très facile de trouver les mots, j'essaye de pas donner trop de détails, mais de répondre à ces interrogations.
Un rôle que joue aussi l'école avec sa cellule d'écoute. Des psychologues sont venus se présenter et l'écolière a décidé d'aller leur parler.
Parce que je suis triste.
Savoir répondre à la peine des enfants, c'est l'une des missions de la cellule d'écoute mise en place dans le quartier. par le maire du 19e arrondissement, François Dagneau.
Alors c'est une des dimensions importantes de ce travail, c'est aussi d'armer les parents, si j'ose dire, pour savoir que dire aux enfants. L'idée étant que les parents ne reportent pas leurs propres angoisses sur leurs enfants. Et c'est là qu'un dialogue avec des psychologues est très utile, puisqu'il permet de donner des outils et les mots pour le dire en s'adressant à des enfants.
Les quatre psychologues de la cellule ont reçu une dizaine de personnes dès le premier jour.
Un sujet, Olivier, dont s'est emparée aussi la classe politique, la présumée coupable, mise en examen, étant en situation irrégulière sur le territoire.
Oui, et l'extrême droite en particulier s'est emparée de cette affaire. Les parents de la jeune fille ont appelé à la dignité et au respect avant les obsèques prévues ce lundi. On ne quitte pas tout à fait la France avec cette tension qui est encore montée d'un cran cette semaine entre Bamako et Paris. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies a tourné au véritable clash diplomatique mardi dernier entre la France et le Mali donc. On en parle avec vous, Clémentine Pavlotsky, pour RFI. L'intervention du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a provoqué la colère de l'ambassadeur français auprès des Nations Unies.
Oui, le chef de la diplomatie malienne a renouvelé les accusations selon lesquelles la France aurait violé l'espace aérien malien, partagé des renseignements et livré des armes à des organisations criminelles. Abdoulaye Diop dit en avoir la preuve. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention.
Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali.
Des propos dont Nicolas Rivière, l'ambassadeur français auprès de l'ONU, s'est immédiatement indigné. Il dénonce des mensonges et diffamations. Il rappelle aussi que pendant 9 ans, l'armée française avait été déployée à la demande du gouvernement malien.
Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral.
Alors cette passe d'armes est une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre Paris et les autorités maliennes de transition. Mais en réalité, les soldats français sont régulièrement accusés d'être complices des groupes djihadistes, mais aussi de piller l'or du Mali ou encore d'y mener des essais nucléaires. L'armée française fait l'objet d'innombrables accusations du genre sur les réseaux sociaux, des accusations lancées par de simples individus ou par des faux comptes créés spécifiquement pour désinformer.
Clémentine Pavlotsky pour RFI. Et pour refermer l'accent des autres cette semaine, les médias francophones publics vous fixent bien sûr rendez-vous dans 8 jours avec Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, RFI, France Bleu et la RTBF. Excellente fin de semaine à vous.